Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Un très grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Nous vous proposons aujourd'hui un entretien qui a été enregistré en public le 9 octobre dernier en Côte d'Or, à Semur en Auxois, dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. Un événement littéraire initié par Cyril Lefebvre de la librairie de La Poste. Nous remercions chaleureusement Yannick Perrin qui nous accueille dans sa galerie d'art au 2 bis rue du Bourg voisin dans cette belle cité de Semur en Auxois. Et je ne serai pas complet sans saluer le public qui nous accompagne. Bonjour à vous le public. Et maintenant, je salue l'invité du Cercle des auteurs bourguignons, c'est Claude Chapuis. Bonsoir Claude Chapuis.
Bonsoir.
Claude Chapuis qui a fait paraître, il y a un petit moment maintenant,
oui,
un roman paru aux éditions Lire à l'Est et qui a pour titre « Charlotte Frappillon, la dame des vignes ». Je tutoierai Claude, pas beaucoup d'invités que je tutoie dans mes émissions, parce que Claude et moi, nous nous connaissons depuis fort longtemps. Et d'ailleurs, cela nous a été rappelé un événement, une rencontre littéraire, au temps où les éditions de Bourgogne existaient, où Claude, tu avais fait paraître un ouvrage dans cette maison d'édition qui n'existe plus, mais qui a eu une certaine longévité, effectivement. Et c'était à la ferme de la Fosse d'Yonne, à Tonnerre. Et je salue également les anciens libraires de Tonnerre qui ont la gentillesse de nous faire la surprise de leur venue et de leur participation, Sylvie et Jean-Jacques Ricard. Voilà, c'était un bon temps où il y avait une librairie sérieuse qui rayonnait dans le Tonnerrois et qui organisait de belles soirées au coin du feu à la ferme de la Fosse d'Yonne. Ceci dit, il y a le Cercle des auteurs bourguignons désormais à Semur en Auxois. Alors je vous présente Claude Chapuis. Claude, je le connais et pas tant que ça finalement, parce que cette semaine je l'ai contacté par téléphone et je t'ai demandé de m'envoyer quelques petits éléments biographiques, que conserver, quel était ton parcours. Alors finalement tu es né un jour de la Saint-Médard et c'est un saint particulier.
Un saint de la vigne, oui, le saint de la fleur de la vigne, et il vaut mieux qu'il ne pleuve pas ce jour-là.
Alors tu es né dans un village viticole. Et puis, lorsque tu étais jeune, tu voyais tes camarades qui allaient jouer au football, tandis que tu étais réquisitionné par ton père pour travailler déjà dans la vigne.
Oui, parce qu'à cette époque-là, les vignerons n'étaient pas tellement riches. Et donc, ils servaient de la main-d'œuvre disponible à la maison.
Et en fin de compte, la vigne, la terre, la Bourgogne, t'avais plutôt envie d'ailleurs et d'exotisme, tu rêvais d'aventure et surtout du continent nord-américain.
Voilà, j'ai voulu tourner le dos à la vigne et je dois dire que jusqu'à l'âge de 17 ans, je n'ai lu aucun autre livre que les aventures de Bob Moran. Alors Bob Moran, c'était l'aventure et puis je vais aller voir des westerns quand j'avais l'argent pour ça. Et donc j'ai rêvé d'Amérique et j'ai voulu voir l'Amérique.
Alors tu as un point commun avec Philippe Labro, c'est que tu as bénéficié d'une bourse qui t'a permis de te rendre aux États-Unis dans un État qui est le Wisconsin.
Le Wisconsin, un État. Alors j'étais loin d'être le meilleur élève à l'université. Personne ne voulait aller dans le Wisconsin. Tout le monde voulait aller sur la côte Est, à Boston, à New York, en Floride ou en Californie, mais surtout pas dans le Middle West, dans le Wisconsin.
Et alors, dans cet état des États-Unis, et alors là, tu m'as rappelé Jack Kerouac, La Route, ce roman de Jack Kerouac, parce que tu dis que tu as plus appris à travers une vie un peu de nomade, tu sautais dans les trains de marchandises pour te déplacer, tu faisais de l'autostop, comme Philippe Labro aussi me le disait, l'autostop m'a beaucoup appris.
Eh oui, on fait des rencontres tout à fait inattendues, et puis avec des gens qui sortent de l'ordinaire.
Alors, tu vas aussi découvrir l'Alaska. Oui, ça... Un petit mot sur cette période.
Oui, alors l'Alaska, j'ai travaillé dans un ranch en Colombie-Britannique et puis mon patron m'avait emmené à Barkerville, c'était une ville de la rue vers l'or. Et moi, c'était mon rêve de voir une ville de la rue vers l'or. Et il a douché mon enthousiasme en me disant, mais il n'y a rien d'authentique là. C'est fait pour les touristes. Si tu veux de l'authentique, il faut aller à Dawson City, c'était à 2000 km de là, dans le Yukon. Alors, ni une ni deux. J'ai fait de l'autostop, je suis allé à Dawson City et j'ai découvert une ville vraiment de la rue vers l'or, une ville fantôme où restait quand même la cabane où Jack London avait séjourné pendant l'hiver 1897.
Et tu t'es réellement retrouvé nez à nez avec un ours ?
Ah oui, plusieurs fois, oui, plusieurs fois, oui. Ça s'est toujours bien passé. Je me suis même trouvé tout près d'un ours qui se dressait devant moi. J'étais dans la lune à ce moment-là. Et je n'ai pas eu peur. J'ai eu peur après coup. Mais l'ours se dressait. Et puis il est redescendu calmement sur ses pattes et il est parti.
Alors, tu es né, nous l'avons dit, dans un village viticole de la Côte d'Or. On peut avoir le nom de ce village ?
À Los Corton.
Ce qui est quand même est plus qu'un symbole dans l'univers du vin. Et alors, comment rentres-tu dans cet univers du vin qui demande du travail, de la patience, de l'intelligence aussi ? Parce que la vigne exige et attend beaucoup de celui qui doit lui permettre de donner les fruits.
Bon, alors, quand on est à l'étranger, on pense à ses racines. Alors, j'ai quand même pensé à la Bourgogne, j'ai pensé à la vigne avec un autre regard. Et puis, je me baladais à San Francisco. À l'époque, je faisais des déménagements. Et j'ai rencontré par hasard dans les rues un Américain que je connaissais, un ancien élève du lycée viticole de Beaune, et qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à faire des déménagements ? Il y a du travail dans la maison de vin où je travaille, c'était dans la Napa Valley, à Saint Helena, pas loin de là où habitait Jack London, et là où avait séjourné Robert Louis Stevenson. C'était un beau village de la vallée de Napa, donc région viticole. Et puis j'ai travaillé là-bas, et j'ai retrouvé les gestes que j'avais cru avoir oubliés.
Alors, tu as travaillé aussi, toujours comme vigneron, en Suisse, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et puis plus récemment, au Chili.
Voilà, parce que je me suis rendu compte que le fait de venir d'Alos Corton et de savoir travailler la vigne ouvrait beaucoup de portes, et que finalement, ça correspondait beaucoup à ce que j'attendais d'un travail.
Alors, tu as un temps enseigné la culture française aux étudiants étrangers qui venaient à Dijon, et maintenant, tu leur offres une introduction à la viticulture dans une école qui est BSB Dijon, qui est l'ancienne école de commerce,
oui,
c'est cela, hein ?
C'est Burgundy School of Business. C'est une école de commerce, donc ce n'est pas une école technique qui forme des vignerons. Mais pour faire des affaires, pour commercialiser le vin, il faut quand même connaître le produit. C'est pour ça que j'enseigne la viticulture.
Alors, pour être complet aussi, je rappelle que chaque trimestre, on retrouve dans Pays de Bourgogne des chroniques. C'est les chroniques de la Cabotte.
Oui, les lettres de la Cabotte.
Les lettres de la Cabotte. Et puis, tu interviens aussi sur la radio RCF Bourgogne. Plus de 1200 chroniques que tu as déjà délivrées pour les passionnés du vin et de son histoire.
Voilà, une chronique qui s'appelle « Le chemin des vignes ».
Alors nous allons prendre, nous, cette fois-ci, le chemin de ton roman et faire connaissance avec Charlotte Frappillon, « La dame des vignes », le titre donc de ce roman paru aux éditions Lire à l'Est. Tu nous offre le destin de cette femme qui naît dans un milieu modeste. Alors, c'est plutôt la côte chalonnaise dans les années 10. Elle est née, on ne sait pas vraiment, au début des années 20 ?
Oui, au début des années 20.
Début des années 20. Donc, elle est, on va dire pour faire simple, dans un petit village, pas très loin de Mercurey.
Voilà. Et la côte chalonnaise était le parent pauvre à l'époque. Les bourguignons de la côte de Beaune et de la côte de Nuits n'étaient pas vraiment prospères, mais il y avait une misère plus grande en côte chalonnaise.
Alors cette petite jeune femme se prénomme Charlotte, et elle est très rapidement orpheline de mère dès l'âge de 12 ans. Et puis elle accompagne beaucoup son père, qui lui est pépiniériste, mais qui va beaucoup se livrer à la taille des vignes. Elle accompagne son père avec intérêt, avec affection. Elle est élevée par sa grand-mère. Et c'est donc tout le destin de Charlotte qui est déroulé dans ce roman. Alors, il y a l'histoire de ce personnage, qui est un personnage de papier, ou inspiré de...
C'est un personnage inspiré par une dame de mon village.
D'accord.
Que j'admirais beaucoup.
Et donc, tu nous fais voyager dans le destin de cette jeune femme, qui d'ailleurs est curieuse, se cultive, qui d'ailleurs est très bien placée au certificat d'études. Ensuite, elle fait l'école ménagère de Chalon-sur-Saône. Et puis, c'est peut-être pas si surprenant que cela, elle a eu beaucoup d'enthousiasme et de passion pour la vigne à travers le travail de son père, pépiniériste. Et la voilà donc qui rentre dans cet univers très masculin.
Voilà, elle veut un peu sortir de son hameau, hein,
oui.
Parce que c'est le hameau de Touche, où il y a une très belle église romane d'ailleurs. Elle veut sortir de son hameau de Touche et puis aller à ce qui était l'étranger, la côte de Beaune, à une quarantaine de kilomètres de là.
Alors, province qu'on dit très riche.
Oui.
Qui fait rêver.
Tout est relatif, hein, tout est vraiment relatif. Et donc, elle a envie d'aller faire les vendanges là-bas parce qu'on va recruter les vignerons de la Rousse-Corton. Vont recruter dans la côte chalonnaise ou dans le bassin minier aussi. Mais là, elle va d'ailleurs avec des femmes de mineurs de Blanzy, elle va dans la vigne pour faire les vendanges.
Alors, dans les vignes, les femmes sont moins rémunérées
oui.
que les hommes, d'une part. D'autre part, il y a déjà, et il se poursuit, il y a cet exode rural, on quitte les campagnes. Pas dire que les campagnes se vident, mais peut-être que les hommes vont chercher du travail plutôt vers les cités industrielles, le Creusot.
Oui. Charlotte a deux frères et les deux frères vont travailler.
Son PLM à Chamy,
oui.
C'est ça. Alors, bien évidemment, cet univers du vin, tout au long du roman, nous le découvrons dans ses spécificités, dans ses traditions et dans ses exigences également. On pourrait dire que la vigne est presque un personnage, parce qu'elle traverse différentes saisons, il y a des cycles, il faut s'en occuper, il faut l'éduquer, elle est tantôt vivante, parfois elle est en sommeil, en dormance, dit-on, en hiver. Et puis, comme tout être humain, elle n'est pas à l'abri de maladies. Il y a eu, on le sait, des vignobles en France qui ont dû être arrachés parce qu'abîmés par les crises du phylloxéra. Je crois que pendant 30 ans, il y a
oui,
eu de...
Ça a été entre 1870 et 1900.
Et alors, l'oïdium, qu'est-ce que c'est
l'oïdium?
Est-ce que c'est plus dangereux que le phylloxéra?
Alors, l'oïdium a été introduit en 1849 avec des cépages américains que des pépiniéristes, des collectionneurs ont fait venir des États-Unis. Parce qu'ils voulaient agrandir leur collection, mais en faisant venir des cépages qui n'appartenaient pas à la même famille que la vigne européenne, la Vitis vinifera, ils ont fait venir des cépages de vignes presque sauvages des États-Unis, des vignes qui étaient immunisées contre les maladies. Alors les maladies, l'oïdium, c'est une maladie causée par un champignon qui se développe dans les mêmes conditions qu'un champignon, quand il fait chaud et humide. En 1849, alors là, on a trouvé quand même la solution, c'est avec le soufre, un soufre en poudre. Il y avait même un beau dessin de Daumier là-dessus, « La vigne souffre, souffrons la vigne ». Ensuite, il y a eu, à partir de 1863, il y a eu le phylloxéra qui a commencé dans le Gard, on appelait ça les taches de roquemort, et le phylloxéra, il a fallu très longtemps pour identifier. Le phylloxéra est causé par un insecte, un papillon qui pond des œufs, et le ver, le phylloxéra, ronge les racines et prive la vigne de sa sève. Si bien qu'au bout de 3 ou 4 ans, la vigne meurt. Et il a fallu très longtemps pour trouver la solution. Alors on a tout essayé, on a essayé d'ébouillanter, on a essayé d'amener l'eau, on a essayé l'urine, on avait commencé par les prières d'ailleurs. Saint Valentin est un saint de la vigne aussi, parce qu'on a envoyé une délégation au Vatican demandant au pape des reliques d'un saint pour intercéder en faveur des vignerons afin de mettre fin au phylloxéra. Et les reliques qui étaient disponibles, c'était celles de Saint Valentin. Saint Valentin a réussi sans doute beaucoup plus avec les amoureux qu'avec la vigne. Ça n'a pas marché. Donc voilà, toutes sortes de choses jusqu'à ce que un pépiniériste texan, c'est au Texas qu'on a trouvé la solution, à préconiser le greffage. Alors, greffer, comme les vignes américaines sont immunisées contre le phylloxéra, parce qu'elles ont des racines qui sont beaucoup plus épaisses, on a greffé la vigne française sur la vigne américaine.
Alors, effectivement, les premières pages de ton roman s'ouvrent sur l'activité de greffage menée par le père donc, de Charlotte Frappillon. Enfin, Frappillon, c'est son nom marital.
Oui, hein. Alors, oui, c'est Charlotte David, Frappillon. Frappillon, alors j'ai pris parce que c'est le nom de certains de mes ancêtres et le nom a complètement disparu. Donc, je me le suis accaparé.
Et puis, Frappillon, il y a cette proximité oui. avec Papillon.
Oui, enfin, oui, on peut trouver beaucoup de choses.
En tout cas, il est question de greffage. Alors, citation. Certains prétendent qu'un vin provenant de vignes greffées est moins bon que celui... qui était avant le phylloxéra.
Oui, alors ça, on l'a beaucoup entendu, mais c'est toujours, ça fait partie de cette façon de penser, c'était mieux avant. Mais c'était une vue de l'esprit. Et puis on peut dire, alors là, petite parenthèse, on peut dire que le vin n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Alors s'il y a des nostalgiques qui vous parlent du vin, alors, il y a eu des grandes années, comme 1929, comme 1934, 1947, 1959. Mais là, dans l'ensemble, les vins qu'on fait aujourd'hui sont excellents. Autrefois, on était content quand on faisait 3 bonnes récoltes sur 10. Maintenant, on en fait 8 sur 10.
Oui.
Et de ce point de vue-là, alors, petite parenthèse, mais de ce point de vue-là, le réchauffement climatique a été plutôt bénéfique jusqu'à maintenant. On pense que jusqu'à 2050, ça ira. Après, c'est là que les gros problèmes apparaîtront et c'est pour ça qu'il faut agir dès maintenant pour se prémunir contre tous les inconvénients du réchauffement.
Alors, nous parlerons un petit peu des climats et de la météorologie, enfin on reviendra sur les définitions de ces termes, et puis on parlera aussi des cépages, mais nous allons marquer un premier intermède musical dans ce wagon-livre enregistré en public le 9 octobre dernier dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. Nous revenons juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
C'est si bon pour le cœur amer. Encore un verre, laissez-moi faire. Je ne vais pas me rouler par terre. Encore un verre, j'ai de bonnes raisons. J'ai dégusté, je connais la chanson. Je ne vais pas traîner, je sais m'arrêter, mais j'en prendrai bien un dernier. Encore un verre, Cupidon m'a mis la misère. Encore un verre, encore un verre, mon ami m'a hier. Encore un verre, je ne marche pas très droit, mais je m'en moque, je ne vais pas rentrer chez moi. J'ai le cœur qui craque, quelle sale époque, ça m'a donné soif un tel choc. Encore un verre, encore un verre, encore un verre, encore, encore, encore.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est Claude Chapuis qui nous accompagne aujourd'hui dans votre émission littéraire. Charlotte Frappillon, La Dame des Vignes, c'est le titre de son roman paru l'an dernier aux éditions Lire à l'Est, anciennes éditions Dominique Guéniaud. Nous revenons sur le parcours de cette jeune femme née au début des années 20 et qui, effectivement, intègre cet univers viticole. Alors, elle va, elle, dans les côtes de Beaune, hein, elle quitte la Saône-et-Loire pour
elle
aller...
Monte.
Elle monte, c'est ça, c'est une ascension. Et puis la greffe, sans jeu de mots, la greffe prend bien aussi pour elle. Elle travaille, alors bien sûr, au moment des vendanges, elle voit quelques beaux jeunes vignerons. C'est d'ailleurs un d'entre eux qui deviendra son mari, qui lui donnera son patronyme de Frappillon. Juste avant la pause musicale, je disais que nous parlerions des climats. Alors, la notion de climat, c'est lié au cadastre du vignoble, c'est ça, Claude?
Oui.
Alors là, je parle devant un haut spécialiste.
Oui. Alors, la notion de climat est apparue au XVIIIe siècle, en gros. Mais elle a repris les noms qui avaient été donnés à la vigne au Moyen Âge. Alors, les noms de ces climats reflètent souvent la nature du sol. Vous avez les argilières, par exemple. Vous avez les chaillots. Les chailles, c'est des pierres. Vous avez beaucoup de noms qui font référence. Vous avez le Clos de la Roche, par exemple. C'est de la Roche, un endroit où on plantait la vigne à la dynamite, hein, parce que la roche affleurait. Donc, ou alors la nature de la végétation. Vous avez, par exemple, Chassagne. Chassagne, c'est une chênaie, un endroit qui était planté de chênes. Vous avez le Mont Rachet. Le Mont Rachet, lui, c'est Rachet, rachitique, c'est une colline qui est chauve. Il n'y a pratiquement pas de végétation, etc. Donc, c'est assez fascinant de voir l'origine de ces noms qui reflètent la nature.
Mais le classement, là, de ces climats ou patrimoine immatériel de l'humanité,
l'UNESCO,
de l'UNESCO, est-ce que ce n'est pas un peu complexe, voire artificiel?
Ah, alors, pour être complexe, oui, ça l'est, parce que il y en a 1247. Pour les connaître, il faut avoir une mémoire extraordinaire. Bon. C'est sûr, mais c'est parfaitement logique. Ça n'a jamais été remis en question. C'est un travail qui a été fait au fil des ans, enfin surtout par les moines qui ont détecté les meilleurs endroits pour cultiver la vigne et qui ont créé, alors les moines, les aristocrates ont créé les clos. Au passage, si vous entourez une vigne d'un mur, un beau mur, vous n'avez pas le droit de l'appeler clos. Il faut que ça ait été authentifié au Moyen Âge, par exemple. Donc, il y a des règles très strictes concernant les climats. Donc, on ne peut pas changer les noms. Parfois, certains climats ont plusieurs noms, mais c'est très rare.
Alors, la dame des vignes, Charlotte Frappillon, découvre cet univers. Claude, la vigne, c'est une liane.
Oui.
Si on ne taille pas une vigne, qu'est-ce qu'on aurait comme paysage?
Eh bien, la vigne pousserait démesurément et ça serait une sorte de jungle.
Oui. Ah oui?
Oui. Et alors, c'est pour ça que la taille, c'est le travail fondamental dans les tâches de la vigne.
Alors, à quel moment taille-t-on?
Alors, la taille, en gros,
en hiver?
Oui, c'est en hiver. La taille, ça commence à la Saint-Martin. Les vignerons aimaient vivre d'après le calendrier. Donc, le 11 novembre, on disait, à la Saint-Martin, l'hiver fait son chemin. Donc, c'était en deux temps, la pré-taille, ce qu'on appelle le démontage, dans lequel on laissait quatre sarments. Au cas où un froid survienne et tue un ou deux sarments. Donc, il pourrait en rester un qu'on peut conserver. Alors ça, c'est la pré-taille. Et puis, après la Saint-Vincent, on pense que le plus gros des froids est passé. On disait à la Saint-Vincent, la serpe à la main. Donc, c'était la véritable opération de taille, la taille guyot, où on laisse un seul sarment, et qui ça sera la branche à fruits. Et puis, un petit sarment, qui sera celui de l'année suivante, le courson, avec un ou deux yeux.
Alors, parlons cette fois-ci de météorologie, cette fois-ci, très important,
oui.
Parce qu'il y a le drame du gel.
Mais oui.
Il y a le drame aussi de la grêle.
Oui.
Alors là aussi, dans le roman, j'apprends, grâce à toi, Claude, que les fusées paragrêles existent depuis 1902. Est-ce que tu peux expliquer le principe de la fusée paragrêle?
Oui. Alors c'est un Autrichien, d'ailleurs, qui avait eu cette idée-là de faire un canon et puis d'envoyer... Alors, de tout temps, les vignerons ont voulu lutter contre la grêle. Alors il y a eu cet Autrichien... on peut voir au musée de Beaune, on peut voir un canon anti-grêle. Ça n'a pas tellement bien marché. Mais ce qui s'est avéré excellent, c'était l'iodure d'argent. Alors, l'iodure d'argent a pour propriété de dissoudre une partie des grêlons, qui sont des morceaux de glace. Au lieu d'avoir de la glace qui achemenue les feuilles et les raisins et qui fait du mal aux sarments, on a des grosses gouttes d'eau qui tombent. Encore faut-il atteindre le nuage. Et ça, ce n'est pas évident, parce qu'on ne connaît pas la portée de ces fusées pareilles. Et souvent, on pense que le nuage est assez bas, alors qu'il est en général à 2000 mètres d'altitude.
Oui, parce que dans le roman, j'ai noté que certaines fusées montent à 1800 mètres. Oui. Donc, très inférieur.
Oui, c'était inférieur.
Alors, il y a des petits rappels historiques qui sont plutôt drôles. Déjà, les Gaulois tiraient des flèches vers le ciel pour le menacer et faire cesser les perturbations atmosphériques. Au siècle des Lumières, les hommes faisaient sonner les cloches à toute volée pour conjurer l'orage.
Oui, c'était parce que des moyens. Parce que ça montre que les hommes ne se résignaient pas. Ils voulaient absolument lutter contre ces malédictions.
Alors, Charlotte a épousé donc son... J'ai oublié le prénom, ça y est. Frédéric Frappillon. Ils convolent en juste noces et après le mariage, ils font... Ton voyage de noces, c'est à Dijon, hein.
Oui.
Et puis, il y a le voyage en Suisse.
Après,
ensuite.
Voyage en Suisse,
là, il y a quelques passages sur les vins helvétiques.
Oui.
Et justement, parlons un petit peu des cépages, Claude, parce qu'on en retrouve certains. Alors, la Ligoté, le chardonnay du pauvre.
Oui, ça a été comme ça. Alors maintenant, la Ligoté revient en faveur parce que le problème avec la Ligoté, c'est un cépage qui est très prolifique et qui n'arrivait pas à maturité. Alors Henri Vincenot appelait ce cépage, et qui était aussi dénommé vin de Troyes. Alors il disait 23, c'est parce qu'il donnait 3 raisins par branche au lieu de 1 pour le Pinot ou le Chardonnay. Et Henri Vincenot disait 23, c'est parce qu'il faut 3 personnes pour le boire, 1 personne pour tenir le verre et 2 personnes pour retenir la personne sur sa chaise.
Alors, il y a le Pinot Noir. Alors, le Pinot Noir, est-ce qu'il est exclusivement bourguignon?
Ah oui.
Le Pinot Noir, il est originaire
de la Bourgogne, ça oui, c'est absolument sûr.
Alors, le Gamay dans le Beaujolais, le Melon...
Le Gamay, originaire de Bourgogne, mais banni de Bourgogne en 1395 par le duc Philippe le Hardi.
Et pourquoi banni, alors?
Parce qu'il l'appelait déloyal. Déloyal Gamay, c'était un cépage productif. Et lui, il voulait encourager la qualité. Et là, pour être juste, c'est plutôt sa femme qui connaissait le vin. Sa femme était flamande et les Flamands étaient des grands clients pour le vin. C'était eux qui avaient l'argent. Et Marguerite de Flandre, la femme de Philippe le Hardi, on pense que c'était elle qui était derrière l'édit.
Alors, il y a le melon des pays nantais. À Vézelay, il y a du melon dans le Yonne.
Oui, il en reste un peu en Bourgogne. Alors, il y avait pas mal de melons de Bourgogne qui a été banni aussi. Banni alors par le roi d'Espagne, parce que il poussait surtout en Franche-Comté, dans la comté de Bourgogne. Et donc banni de là, et il y avait des gens qui étaient attachés au melon, qui sont partis des sortes d'énologues conseils le long de la Loire et qui ont atterri dans la région de Nantes. Et en 1709, qui est l'hiver le plus froid, le plus dévastateur qu'on ait jamais connu depuis qu'on enregistre les températures, 90 à 95% des vignes ont crevé en France. Et parmi celles qui ont survécu, il y avait le melon de Bourgogne, donc autrement appelé le muscadet.
Alors, il y a le vin gris aussi?
Oui. Alors, terminer avec le muscadet, le melon de Bourgogne, était appelé le pourrisseux dans le Val-de-Saône, parce que c'est un cépage qui pourrit assez facilement. Bon, pardon. Alors
le vin gris de Toul, par exemple.
Oui. Alors, il y a aussi le pinot gris. Hein, il y a le pinot gris, pinot beurreau, on l'appelle.
Alors, le pinot gris, par exemple, dans l'Yonne, c'est au niveau de Joigny.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, le pinot beurreau, on l'appelle chez nous, c'est en raison de la robe de bure des moines, un beurreau bure, oui, qui est interdit en Bourgogne pour les vins d'appellation. On peut le faire pour des vins ordinaires, mais pas pour des vins d'appellation. Alors, ça fait un peu mal, parce que c'est le 4e cépage le plus planté en Italie. Et aux États-Unis, on ne parle pas de Pinot Beurreau ou de Pinot Gris, on parle de Pinot Grigio.
Bon. Alors, il y a des scènes de vendange dans le roman. Alors, ça débute à 7 heures. Et alors, les hommes prennent un verre de marc très tôt le matin, entre guillemets, pour tuer le brouillard.
Voilà. Oui.
Et puis, bien sûr, il y a la pause à 9h, le casse-croûte, le vin rouge. C'est une époque où les patrons, les propriétaires de vignobles donnaient un logement à aux ouvriers viticoles.
Oui, alors, il y avait une distinction à faire. Les ouvriers qui étaient à l'année, oui, avaient un logement, ils avaient droit à un logement, un jardin et un carton de vin, c'est-à-dire 57 litres par mois. C'était ça. Ouais. Et puis, les vendangeurs souvent couchaient dans une grange sur la paille.
Et alors, lorsqu'une vendange se termine, on marque l'événement qui a un nom bien particulier.
C'est la Paulée.
La Paulée. Alors, la plus célèbre, c'est la Paulée de Meursault.
Oui. Alors ça a été repris par le comte Lafond en 1922, quand il l'a instauré. La Paulée, c'est le repas que le vigneron offre à ses vendangeurs pour les remercier de leur travail.
Alors, il y a aussi un bon repas. Alors, c'est pendant l'occupation, je crois que c'est en 1940, Charlotte va cuisiner un sanglier tué par un braconnier. Et elle va préparer un délicieux repas pour les vendangeurs. C'est pas, j'adore les descriptions de repas dans les romans. Alors, juste pour voilà, Charlotte prépara un rôti mariné, mijoté avec des légumes, cuisiné avec une sauce au vin qu'elle accompagna d'un bon gratin dauphinois. Après un dessert de poires au vin, elle servit le café mélangé à de la chicorée et le repas se termina avec du mar de Bourgogne. Voilà. Là, voilà. C'était en 1940, parce que bien sûr, en 1940 aussi, les conditions pour entretenir les vignes ont été très difficiles. Alors bien sûr, c'est une période où on manque de tout. Les hommes ne sont pas tous forcément rentrés de captivité, parce que le mari de Charlotte va se retrouver dans un stalag. Il a été sergent-chef, arrêté, et puis placé dans un stalag, et ensuite dans une ferme auprès de vieux fermiers allemands. Mais la vie de la vigne continue. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de vignes négligées.
Oui.
Ah
oui.
Et puis, il y a quand même eu du vin vendu aux Allemands.
Oui. Ah ben oui. D'ailleurs, le commerce était assez prospère pendant la guerre, il faut dire. Il y a eu... Christophe Lucan, l'historien, a écrit un livre sur...
Le vin des nazis, je crois.
Voilà, oui. Oui. Donc, oui, la vigne, c'était surtout les femmes qui s'en occupaient à cette époque. Les femmes, les enfants et les vieillards.
Donc, on a eu des bonnes productions, mais c'est les Allemands qui les ont bues.
Non, on n'a pas eu de bonnes... On a eu de très bonnes années. 39, très mauvais. 40, très mauvais. 41, exécrable. 42, excellent. Petite récolte, 43 excellent et 45 excellent. Ce sont trois bonnes années quand même. Malheureusement, on n'a pas pu utiliser le soufre pour lutter contre l'odium, ni le cuivre pour lutter contre le mildiou, parce que c'était réquisitionné pour les munitions.
Claude, on va marquer un nouvel intermède musical. Je rappelle le titre de ton roman Charlotte Frappillon, la dame des vignes, parue aux éditions Lire à l'Est. Je rappelle que cette émission a été enregistrée le 9 octobre dernier dans le cadre, Claude, dans le cadre de Tu ne suis plus, tu étais dans les vignes, le cadre du cercle des auteurs bourguignons de notre ami Cyril Lefebvre. Et puis, bien sûr, je rappelle que nous avons été accueillis par Yannick Perrin dans sa galerie 2 bis rue du Bourg voisin. On vous retrouve juste après avec notre invité et notre public.
I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand,
My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die. Bones driving down the road alone.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous retrouvons notre invité Claude Chapuis, reçu au Cercle des auteurs bourguignons le 9 octobre dernier à Semur en Auxois, dans la galerie de peinture de Yannick Perrin. Claude Chapuis et son roman Charlotte Frappillon, La Dame des Vignes, paru aux éditions Lire à l'Est. Alors, on a parlé de belle qualité des vendanges, de vins précieux aussi, parce que c'est toute l'identité de la Bourgogne qui se cache derrière ces flacons.
Absolument, oui. Surtout à Pinot Noir, Chardonnay, oui, c'est vraiment l'identité de la Bourgogne.
Claude, dans ton roman, donc le mari de Charlotte est en captivité dans un stalag en Allemagne et les prisonniers français essaient de tuer le temps. Donc bien sûr, on lit, on bavarde. Mais il y a un épisode qui est très intéressant et qui, bien évidemment, est en lien étroit avec les traditions autour du vin en Bourgogne. C'est cette, comment dire, une imitation de ce qu'est ce grand événement qui est le chapitre de la confrérie des chevaliers du Tatevin. Tu confirmes qu'on prononce bien Tatevin ?
Tatevin, oui.
Alors que si on le lit de manière très phonétique, on devrait dire Tastevin. Alors il y a effectivement cet épisode et je crois que c'est important que tu rappelles ce qu'est cette... Alors, il y a beaucoup de confréries vineuses. Bon, dans Lyon, nous, on a
les piliers chablisiens.
Il y en a plein d'autres en Saône-et-Loire. Tu peux en citer quelques-unes de ces confréries?
Il y en a une à Mercurey, il y en a à Santenay, il y a à Savigny-les-Beaunes. Oui, on a...
Et alors, justement, cette confrérie des chevaliers du Tatevin. Alors, un mot sur l'origine de cette confrérie. Ça vient du fait quand même que, dès le Moyen-Âge, il y avait des associations d'entraide de vignerons.
Ah oui, c'était nécessaire. C'était à l'époque des corporations. Les vignerons, par exemple, le plus grand village de viticole en Bourgogne, c'était Dijon. Dijon parce que bon, il y avait la demande, donc pas besoin de problème de transport. Et puis aussi, c'était un métier dangereux parce qu'ils étaient très exposés, surtout en hiver, quand les soldats, la soldatesque, on peut dire, se livraient au pillage. Donc, à Dijon, ils étaient protégés par l'armée. C'est pour ça que... Et les vignerons à Dijon, par exemple, vivaient autour de l'église Saint-Philibert. Ils allaient à l'église Saint-Philibert, ils avaient financé sa construction. Comme ça. Et les confréries ont été créées dans le cadre de ces corporations, c'était de l'entraide. Il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque. Et ça, ça a duré très longtemps, jusqu'à la loi Le Chapelier, pendant la Révolution, qui a aboli les corporations. Et les vignerons se sont trouvés démunis, parce qu'ils n'avaient plus de soutien. C'était devenu nécessaire. Ce sont les prêtres, surtout dans les paroisses, qui ont recréé ces sociétés sous le vocable de Saint-Vincent, par exemple, ou Saint-Vernier, ici. Oui. Il y a 33 saints, Saint-Barthélemy, Saint-Louis. L'idée, c'est l'entraide, parce que c'est bien beau, même aujourd'hui, c'est bien beau d'aller à l'hôpital, d'être soigné, d'être pris en charge, mais pendant ce temps-là, la vigne exige des soins. Et ce sont les collègues, les confrères, qui vont faire le travail du confrère malade.
D'ailleurs, il y a cet épisode où Charlotte mobilise tous les vignerons pour aider un vigneron qui ne peut pas assumer l'entretien de sa vigne. Alors, le tas de vin, rappelons rapidement ce qu'est cet objet qui aujourd'hui est symbolique, mais qui a eu un usage assez fréquent, jadis.
Alors, le tas de vin, oui, maintenant, c'est un objet, un souvenir, on peut dire. Et le tas de vin était transmis de génération en génération. C'est une tasse avec, il y a des cupules à l'intérieur, et puis des bosses qui permettent de mirer le vin, comme on dit. C'est-à-dire, c'est pas pour humer le vin, c'est pour voir la couleur, parce qu'un vin trouble, en général, n'est pas un bon vin. Donc, c'était à la lumière de la chandelle que les courtiers en vin qui achetaient le vin examinaient le vin et déterminaient s'ils allaient l'acheter ou non.
C'est une dégustation visuelle.
Oui, on peut dire ça. Après, il dégustait, oui. Donc, c'est un objet qu'on se transmettait dans les familles de père en fils. En général, le tas de vin était en argent, puis bien orné avec des motifs différents. Et pour en revenir à la confrérie du tas de vin, créée en 1934 à Nuits-Saint-Georges, c'est la plus ancienne de France. C'est la première en France, puis après, elle a été imitée par la Jurade de Saint-Émilion, par exemple. Elle a été imitée dans le Bordelais, puis il y en a partout, Côte-du-Rhône, Val-de-Loire, etc. Et c'était pour trouver une solution à la crise de mévente. Il y a eu la Première Guerre mondiale, pendant laquelle beaucoup de vin a été consommé dans les tranchées. C'est là que les Belges, les Hollandais, les Canadiens, les Américains, les Anglais ont découvert le vin dans les tranchées. Parce que le vin a été cité parmi les vainqueurs de la guerre, en même temps que le maréchal Foch et que Clémenceau. Donc le Pinard a joué un rôle très important. Mais après la guerre, l'hypocrisie des gouvernements, la prohibition aux États-Unis, la prohibition en Angleterre, la prohibition au Canada sauf au Québec. Donc le marché s'est vraiment réduit comme une peau de chagrin et ça a été la crise. En plus, la crise financière de 1929, c'était la misère dans le vignoble. Et pour essayer de trouver une solution à ces crises de mévente, il y a eu l'idée d'attirer des clients fortunés, des gens qui allaient être propagandistes pour notre vin, à Nuits-Saint-Georges, en créant une confrérie, leur offrant à l'époque, c'était un repas de cochon. Hein, ce n'était pas les banquets somptueux d'aujourd'hui, c'était un repas de cochon. Et on a attiré des vedettes de cinéma, des vedettes du sport, des têtes couronnées, des fortunes aussi. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est au Clos Vougeot que se sont déroulés les chapitres.
Alors, le château du Clos de Vougeot, qui effectivement accueille alors 600 à 800 invités, oui. C'est ça oui. Les œufs façon meurette.
Les œufs en meurette, ah oui, ça c'est...
Un classique. D'ailleurs, il y a un concours international, ça doit avoir lieu toujours à l'automne, je crois, effectivement, au château du Clos de Vougeot. Finalement, aujourd'hui, c'est quand même le verre Inao qui a remplacé le tas de vin.
Oui, absolument, parce que maintenant, on apprécie surtout les arômes du vin, alors qu'à l'époque, c'était la couleur.
Alors, le temps passe très vite avec toi, Claude.
Tant mieux.
Il y a la vie de cette Charlotte Frappillon. Alors, bien sûr, Frédéric revient de captivité. Il y a la naissance d'une petite fille. Et puis, il y a des héritiers qui, eux aussi, sont passionnés. Pas tous. Il y a le petit-fils qui, tout d'un coup, se découvre une passion pour la vigne. On a ouvert l'émission en parlant beaucoup de saints. S-A-I-N-T, bien sûr. Saint Vincent J'aimerais que tu reviennes sur ce saint qui d'ailleurs n'est pas d'origine française,
non,
espagnol, je crois.
Il est espagnol de Saragosse, je crois.
Et alors, il y a cette anecdote de saint Vincent, donc juché sur son âne, et c'est l'âne qui aurait inventé la taille de la vigne.
Oui, alors déjà, Vincent n'a jamais bu de vin de sa vie. Et saint Vincent n'est pas du tout célébré en Espagne comme saint de la vigne. C'est en raison de son nom, un vin, et puis sang. On peut faire aussi des jeux de mots avec le sang du Christ, etc. Donc, première chose. Deuxième chose, oui, le mythe de l'invention de la taille. En fait, de tout temps, les hommes ont taillé la vigne. Enfin, depuis 8000 ans, depuis que la vigne a été domestiquée, on peut dire, en Géorgie. Et on retrouve sans arrêt cette idée de l'âne qui apprend la taille aux gens. Alors, c'est Saint Vincent, Saint Martin, c'était Dionysos, enfin, tout ça, sur son âne qui rencontre un vigneron dans sa vigne, et pendant qu'il parle au vigneron, l'âne broute la vigne. Et le vigneron se met en colère en disant, ouais, vous feriez mieux de surveiller votre animal, regardez, qu'est-ce que je vais vendanger cette année. Et en fait, c'est là que les raisins ont été les plus beaux. Mais ça, on retrouve ça en Grèce, il y a Anopli, il y a un bas-relief qui représente un âne en train de brouter la vigne. C'est un mythe très fort.
Alors, la Saint-Vincent, c'est le 22 janvier, avec, comme tu l'as dit, ces Saint-Vincent tournantes. Alors,
c'est le week-end suivant. Oui. Oui. Alors ça, ça a été inventé par la confrérie des chevaliers du Tadevin en 1938. La première a eu lieu à Chambol-Musigny, et chaque année, c'est dans un village différent. Alors, c'est un festival, on donne beaucoup plus d'éclat, les villages sont décorés, il y a des dégustations des différents vins, etc.
Et puis les villages sont décorés, on promène Saint-Vincent.
On promène Saint-Vincent, il y a je ne sais combien de sociétés de Saint-Vincent, toutes avec leur statut du saint et leur bannière.
Alors le Saint-Vincent est confié à une famille appartenant au village qui l'année d'après doit organiser la Saint-Vincent.
Alors dans chaque village, il y a un vigneron chaque année, un vigneron différent qui accueille Saint-Vincent. La statue.
D'accord.
Pendant un an.
Donc c'est dans le village même que la statue change de domaine.
Et donc le jour de la Saint-Vincent tournante, il va avec un autre confrère, il défile dans les rues avec ce saint. Mais c'est à plusieurs années à l'avance, on décide du village où aura lieu la Saint-Vincent. Alors je sais qu'à Los Corton, la dernière fois, elle a eu lieu en 1988. La prochaine fois, ça sera en 2031. Donc, on sait déjà, on se prépare pour 2031, parce que c'est des événements qu'il faut préparer. C'est un travail considérable de faire des fleurs en papier, penser à des thèmes, et puis toute l'organisation, le repas, et puis et tous les problèmes de stationnement des véhicules. Enfin,
oui, c'est un gros travail, un vrai casse-tête, j'imagine, pour les municipalités, des petits villages qui sont envahis.
Et qui n'ont pas une population très grande non plus. Hein.
Ça se maintiendra, les Saint-Vincent tournantes, ou est-ce amené à disparaître ?
Elle a évolué parce qu'il y a eu des débordements. Je me rappelle en 1988, l'alambi s'était installé à Pernan-Vergelès et le distillateur offrait des mêlés cassis, c'est-à-dire du cassis avec du marc de Bourgogne. Autant dire qu'il y a eu pas mal de gens ivres.
Explosifs.
Oui. Donc la gendarmerie a réagi, et même, je crois que pour la Saint-Vincent-des-Hautes-Côtes, ils attendaient les véhicules à la sortie des villages et ils les faisaient souffler dans le ballon.
C'est charmant comme prêtre.
Alors maintenant, vous achetez un ticket et vous avez droit à déguster 5 vins. Donc avant, c'était sans limite, il n'y avait pas de limite.
Alors on va terminer, parce que le temps d'enregistrement de l'émission nous est compté. Je reviens sur la captivité de Frédéric Frappillon, c'est bien cela,
oui,
le mari de notre Charlotte resté dans son petit village à l'attendre, comme beaucoup de femmes françaises attendaient des prisonniers. C'est Charlotte qui découvre un spectacle théâtral de Jacques Copeau, figure peut-être un peu oubliée et qui pourtant...
Ah oui, qui a
est
eu,
à ne pas négliger, mais
oui,
qui a eu
une importance considérable. Oui, c'est lui qui était à la tête du renouveau théâtral qui a eu lieu en 1925, c'est-à-dire renouer avec ce que faisait Molière et l'illustre l'illustre théâtre, aller dans les villages, jouer devant un public de villageois et non plus le public parisien du Vieux Colombier.
C'est ça, puisque c'est le créateur du théâtre du Vieux Colombier, voilà. Et Charlotte va assister à une représentation théâtrale d'une pièce de Copeau, oui, par la troupe des Copiaux.
Voilà, c'était le 500e anniversaire de l'Hôtel-Dieu de Beaune. L'Hôtel-Dieu a été fondé en 1443 et en 1943, il y a eu le 500e anniversaire. Et ce qui est à signaler, c'est que aucun Allemand n'a assisté à ce spectacle. Et ils ont bien veillé à ce qu'il y avait. Il y en a juste un, c'était le commandant, qui est venu en civil et parce qu'il était très francophile.
Voilà, vous aurez compris qu'on ne peut pas évoquer tous les aspects de ce riche roman, mais en parallèle de la vie de Charlotte, eh bien, le roman fourmille d'anecdotes, de traditions. C'est un beau travail bien équilibré, Claude. Bravo.
Et merci.
Et c'est donc plus que la chronique. C'est plus qu'une la chronique d'une vie d'une vigneronne. Alors bien sûr, Charlotte, on la retrouve âgée. Elle devient chevalier du Tadevin pour avoir bien biné la vigne et son être bien occupé. C'est Charlotte Frappillon, la dame des vignes, aux éditions Lire à l'Est, sous la plume de Claude Chapuis, qui était donc notre invité. Je remercie notre chaleureux public, toujours très concentré, hein, Claude, il buvait tes paroles. Et je remercie bien sûr Cyril Lefebvre qui a mis en place ce cercle des auteurs bourguignons. Je le remercie pour sa confiance. Et nous remercions également Yannick Perrin qui nous accueille dans sa galerie de peinture, dans cette belle cité de ce mur en Aussois, qui a fourni sans doute, on n'en a pas parlé, de beaux chevaux, parce que le cheval a été un animal précieux dans les vignes. Un petit mot rapide, Claude, sur les chevaux. Notamment l'Aussois,
oui.
Mais qui est un croisement.
Oui, oui, oui.
D'Ardennais et de Morvan.
C'est ça.
Morvan,
oui.
Cheval, voilà. Voilà, bien, on va terminer en ayant parlé du cheval de l'Aussois.
Alors, Cléopâtre.
Cléopâtre, qui est la jument qu'achète Frédéric. Alors, bien sûr, lui aussi, il gravit un peu les échelons. Socialement, il devient chef de culture, etc. Enfin, c'est à découvrir dans ce très beau roman de Claude Chapuis, Charlotte Frappillon, la dame des vignes. Merci de nous avoir écoutés en cette fin de matinée sur Radion. Je vous retrouve bien sûr samedi prochain, toujours à 11h. Et si vous avez manqué cette émission, ce qui est franchement regrettable, eh bien, pas de panique, vous vous rendez sur yannickpetit.fr. Et si tout se passe bien, et c'est gratuit, vous pourrez vous intéresser, rentrer dans ce roman et vous promener au milieu des vignes, de l'histoire et de la tradition de la Bourgogne vinicole. Alors on dit viticole. Que Claude a fait renaître dans ce beau roman que je recommande.
On dit viticole et un vigneron vous dira que le vin se fait dans la vigne.
En tout cas, ce qui est important, c'est que les livres comme le vin, ça se partage. C'est un peu la règle de l'émission. On partage nos coups de cœur et les auteurs. Merci Claude, bon congé de fin de semaine. Merci à notre public, au revoir et à samedi prochain.